écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 1h en temps universel.
Gali Bonin.
L'actualité, c'est d'abord ces appels aux dons pour venir en aide à la Birmanie. L'OMS, la Croix-Rouge et d'autres organisations commencent des levées de fonds après le séisme. Par la négociation ou par la force, Donald Trump compte bien faire avancer le dossier du nucléaire iranien. Il a promis à l'Iran des bombardements si les négociations devaient échouer. L'Eid el-Fitr, célébré dans tout le monde musulman, cette fête signe la fin du mois de Ramadan. On vous emmènera au Cameroun où les célébrations sont aussi un moment de partage avec les non-musulmans. En Turquie, l'opposition appelle à maintenir la pression pour demander la libération du maire d'Istanbul. Et Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la présidentielle de 2027? La candidate pressentie du Rassemblement national fait face à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Le jugement va tomber dans quelques heures. La Birmanie est en état d'urgence absolue après avoir été secouée par son pire séisme en plusieurs décennies. Plusieurs centaines de secouristes chinois, indiens ou encore philippins ont été déployés. Les organisations aussi s'activent dans les décombres et auprès des blessés. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché le niveau de crise le plus élevé de son programme d'intervention. Et sur place, les dangers restent nombreux, comme l'explique Benoît Carpentier. C'est le porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
On s'attache à retrouver des personnes vivantes sous les décombres. C'est vraiment la priorité absolue pendant les premières heures. Les chances diminuent au fur et à mesure que le temps avance. En même temps qu'on a cette course contre la montre, on a aussi besoin de s'occuper des gens qui ont été blessés. Donc il y a besoin d'énormément de soins. Et puis tous les gens qui sont sans abri. Et en plus de ça, on a bien sûr l'accès à l'eau, l'eau potable, pour les populations qui sont dans un état de vulnérabilité extrême. Il faut remettre dans le contexte, on est dans un pays qui fait face à des catastrophes naturelles récurrentes, sur lesquelles on était toujours en train d'intervenir d'ailleurs. Il y a des vagues de chaleur, il fait plus de 40 degrés dans la capitale. Plus l'instabilité politique et les conflits internes, ça fait une situation qui est très très compliquée à gérer. Ce qu'on va avoir besoin très rapidement, c'est des financements. On a lancé un appel d'urgence ce matin pour 100 millions de francs suisses pour qu'on puisse déployer toutes nos unités, tout ce dont on a besoin pour pouvoir répondre à l'urgence le plus rapidement possible. Et puis pour le long terme, on puisse continuer à aider les gens autant qu'ils en ont besoin.
Benoît Carpentier, porte-parole de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Croissant-Rouge, justement, qui dit avoir retrouvé les cadavres de 15 secouristes tués par l'armée israélienne à Gaza. Parmi eux, 8 ambulanciers de l'organisation médicale, 6 membres de la défense civile et un employé de l'Agence des Nations Unies. La semaine dernière, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des ambulances lors d'une opération terrestre dans le sud de l'enclave. Ils disent avoir jugé le convoi suspect. Une reprise des combats qui s'intensifie et qui est dénoncée par Emmanuel Macron. Durant un appel avec le Premier ministre israélien, le président français l'a sommé de mettre fin aux frappes sur Gaza et de revenir à un cessez-le-feu. Nouveau coup de pression dans le dossier du nucléaire iranien. Dans une interview accordée à une journaliste de NBC, le président américain a menacé l'Iran de bombardement si les négociations en venaient à échouer. Plus tôt cette semaine, le ministre des Affaires étrangères iranien a refusé d'engager des discussions directes avec les États-Unis. Donald Trump a quant à lui confirmé que des négociations entre des responsables des deux pays étaient bel et bien en cours. Sur le continent africain, plusieurs pays célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan ce dimanche. D'autres le célèbrent ce lundi, c'est le cas du Burkina Faso et du Cameroun. Au Cameroun, justement, cette fête est aussi un moment de partage entre les musulmans et les non-musulmans. Le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena.
Pour nous, commerçants au quartier briqueterie à Yaoundé, le mois du Ramadan est un mois sacré, un moment de bénédiction. Mais c'est aussi un mois d'épreuve pour ce fidèle musulman.
Quand tu restes affamé pendant un mois, tu sens ce que veut dire rester avoir faim. Même le riche jeune, le pauvre jeune. Mais quand le riche jeune, il sent que ceux qui n'ont pas à manger, c'est eux comme les pauvres. Normalement, on doit les ravir, on doit les donner à manger.
Au Cameroun, la quasi-totalité des communautés se sentent concernées par cette fête de fin du mois de Ramadan. Ulrich, un chrétien catholique, n'hésite pas à partager ce moment avec les musulmans de son quartier qui gardent toujours les portes ouvertes.
J'ai reçu plus d'une invitation. Comme ça que les choses se passent au Cameroun. On est toujours entre nous, on va dire ça comme ça. C'est pas une fête des musulmans. C'est notre fête.
Une générosité que préconise l'islam qui recommande de vivre ensemble au cours du mois de Ramadan. Jewil Sardou est un notable Haoussa à la chefferie des Koudoua Yaoundé.
C'est l'islam qui a demandé de vivre ensemble. Donc quand tu as un voisin qui n'est pas musulman, parce que ton premier frère c'est ton voisin. Et cette fête doit se fêter avec même ceux qui ne sont pas musulmans.
2025 ne déroge pas à la tradition, la célébration de l'Aïd El-Fitr est marquée au Cameroun par cette cohabitation harmonieuse entre les communautés. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Au lendemain d'une manifestation monstre en Turquie, l'opposition au président Recep Tayyip Erdogan appelle à ne pas relâcher la pression. Le CHP, le parti du maire d'Istanbul, arrêté la semaine dernière, a promis d'organiser deux mobilisations par semaine, une à Istanbul et une dans une autre ville du pays. Depuis le début du mouvement qui réclame la libération d'Ekrem İmamoğlu, au moins 2000 personnes ont été arrêtées. Parmi eux, un journaliste suédois emprisonné à sa sortie de l'avion. Il est accusé de terrorisme et d'insultes au président Erdogan. Des accusations démenties par son média qui dénonce une atteinte à la liberté de la presse. Et dans quelques heures, Marine Le Pen saura si elle pourra se présenter ou non à la présidentielle de 2027. La chef de file de l'extrême droite française fera face au juge lundi matin dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Elle risque une peine d'inéligibilité de 5 ans. Au Rassemblement national, tout le monde retient son souffle, mais même à l'extérieur de son camp politique, certains s'interrogent sur la capacité de la justice à éloigner une candidate d'une élection présidentielle. C'est le cas de l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Il était en interview sur la radio RTL.
C'est une question très importante. D'abord, évidemment, il y a le droit. Cette loi, Sapin 2, a été votée en 2016. Marine Le Pen ne s'y est pas opposée. C'est cette loi qui donne au juge le pouvoir de faire en sorte que, lorsqu'il y a eu une infraction, que celle-ci est condamnée, eh bien qu'il y ait inéligibilité, y compris tout de suite. Maintenant, je voudrais aller sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est que moi-même, en tant que cette fois-ci que simple citoyen, je regarde évidemment tout ça. Et je vois qu'il y a un nombre très important de nos concitoyens français qui se retrouvent dans les propos et le combat de Marine Le Pen. Et personnellement, je serais très ennuyé, et le mot est faible, si jamais elle ne pouvait pas se présenter pour les représenter.
L'ancien commissaire européen Thierry Breton. À peine nommé et déjà contesté en Syrie, l'administration autonome kurde a remis en question la légitimité du nouveau gouvernement. Annoncé hier, il est dominé par des fidèles du président par intérim Ahmad al-Sharr. Il ne tient pas compte de la diversité syrienne, dénoncent les représentants kurdes, qui affirment ne pas se sentir concernés par les décisions de cette administration. Devise boursière à Tokyo, lundi matin, la bourse japonaise a chuté de plus de 3% dès l'ouverture. Les marchés sont affolés par les conséquences économiques de la guerre douanière engagée par Washington. À partir du mardi 2 avril, les États-Unis imposeront une surtaxe de 25% sur les importations automobiles, secteur crucial pour l'économie japonaise. Fusionner musique classique et rythme afro-caribéen, voire sud-américain, c'est la spécialité de Joachim Horsley. Ce pianiste, compositeur et arrangeur américain sort le troisième volet de sa trilogie Via Havana. Dans Afrobac, il revisite les plus grands tubes d'un monument de la musique européenne. C'est Jean-Sébastien Bach, évidemment, avec une légèreté décoiffante. Carmen Lunzmann.
Un air de Bach, Jean-Sébastien Bach, et beaucoup de rythme latin. C'est en sept titres étonnants et détonnants que Joachim Horsley réinvente les plus grands classiques du cantor de Leipzig, né au XVIIe siècle.
Je ne suis pas la première personne à fusionner musique classique et salsa ou musique latine, mais en tant que compositeur de musique de film, j'apporte quelque chose de nouveau. Je crée mon propre récit. Et si ces compositeurs, Bach, Beethoven, Mozart, n'avaient pas vécu à Vienne, mais à La Havane, à quoi ressemblerait leur musique ?
L'album Afrobach y répond avec un prélude de Bach aux Afrobeats ou une partita africaine aux percussions haïtiennes et brésiliennes. Des arrangements aussi efficaces que éblouissants. Tous signés Joachim Horsley. Ce virtuose du piano, qui en joue depuis ses 5 ans, s'est entouré de musiciens des Caraïbes, d'Afrique et d'Amérique du Sud pour célébrer l'héritage de Bach de manière fidèle et sans frontières.
3h09, presque 10 ici à Paris. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.